C'est une joie d'être ce soir avec vous tous, jeunes adultes, qui vous trouvez ici, dans notre tabernacle bien-aimé, nouvellement rénové, ainsi qu'avec ceux d'entre vous qui sont réunis dans les centres de pieux de partout et qui nous regardent grâce à la transmission par satellite. Ce soir, je suis très confortable dans mon fauteuil ce soir, plus que vous peut-être. Je me souviens quand j'étais assis là où vous êtes, sur les bancs. Et lorsque le tabernacle a été rénové, ils n'ont pas adouci les sièges. C'est dommage. Nous sommes contents de vous voir ici tous ce soir, merveilleux jeunes gens. Et nous sommes reconnaissants, nous apprécions le fait que vous puissiez aller de l'avant et faire ce qui est bon et vrai, et faire ce que le Seigneur vous demande de faire dans votre vie. Jeune fille, vous savez ce que vous devez faire. Et les jeunes gens apprennent ce qu'ils doivent faire également en votre présence. Je voudrais dire une chose à vous, jeunes garçons. N'écoutez pas trop les conseils de vos amis. Je suis content d'avoir Sœur Faust près de moi. Quand nous avons décidé de nous marier, je lui ai dit que j'avais besoin d'elle, de son assistance. J'avais besoin de davantage d'éducation. J'apprécierais son soutien. Et je peux dire honnêtement qu'elle m'a donné ce soutien et elle a rendu possible les choses que j'ai faites dans ma vie. Je dois vous dire que le mariage, c'est d'avoir quelqu'un à votre côté. Et Sœur Faust a été une compagne magnifique. Ce soir, je voudrais parler de l'amour propre, ce que nous pensons de nous-mêmes, la façon dont nous réagissons à ce que les autres pensent de nous et de la valeur de ce que nous accomplissons. Un Anglais anonyme a fait jadis cette prière. Ô Dieu, aide-moi à garder une haute opinion de moi-même. Cela, a dit Harold Bailey, à propos de la demande de l'Anglais, devrait être la prière de toute âme. Non un amour-propre anormalement développé qui devient du dédain, de la vanité ou de l'arrogance, mais un respect de soi en toute justice que l'on pourrait définir comme la croyance en sa propre valeur, en sa valeur pour Dieu et en sa valeur pour l'homme. En effet, l'amour propre dont je parle ce soir n'est pas un amour de soi aveugle, arrogant et vain, mais plutôt un amour propre qui se respecte, est honnête et sans vanité. Il découle de la paix et de la force intérieure. L'amour propre se situe au cœur même de notre progression et de nos réalisations personnelles. Il est le ciment de notre autonomie, de notre sang-froid, de notre approbation ou de notre désapprobation par rapport à nous-mêmes, et il assure le fonctionnement de tous les mécanismes d'autodéfense. Il nous protège contre la tentation de nous illusionner sur nous-mêmes, contre le manque de confiance en nous-mêmes, contre la culpabilisation et contre l'égoïsme pur et simple. Dans ma longue vie, j'ai remarqué que ce n'est pas nécessairement aux riches ni aux personnes célèbres que le plus grand respect est dû, mais aux héros discrets, inconnus, dont personne ne parle, dont l'identité véritable, comme celle du soldat inconnu, n'est connue que de Dieu. Ceux dont on ne parle pas ont souvent peu de choses, en fait, de standing, mais beaucoup en valeur, en fait, de valeur. Quand j'étais adolescent, je vivais dans la région de Cottonwood, du comté de Salt Lake, qui était alors la partie rurale de la vallée. Un des hommes qui avait la plus grande dignité et imposait le plus grand respect, était un vieux frère scandinave, qui, après avoir fait quelques kilomètres à pied, prenait le tram pour travailler quotidiennement au cimetière de Salt Lake City et en revenir. Son travail était d'arroser et de tondre la pelouse, de prendre soin des fleurs et de creuser les tombes. Il ne disait pas grand-chose parce qu'il ne parlait pas bien l'anglais, mais il était toujours là où il devait être, faisant ce qu'il devait faire de la manière la plus digne et la plus exemplaire. Il n'avait aucun problème d'amour-propre ou de foi, parce que tandis qu'il creusait des tombes pour gagner sa vie, il estimait que son travail était de servir Dieu. C'était un homme qui avait peu de standing, mais beaucoup de valeur. Quand il a appelé ses disciples, le Sauveur n'était pas à la recherche d'hommes et de femmes ayant du standing, du bien ou de la renommée. Il recherchait des gens qui avaient de la valeur et du potentiel. C'était un groupe intéressant que ses premiers disciples, les pêcheurs, le collecteur d'impôts et les autres. Après leur appel comme apôtres, ils ne sont pas devenus enflés d'orgueil, ils ne se sont crus supérieurs. Une fois, après que certains d'entre eux eurent été battus, ils poursuivirent leur chemin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. La valeur a peu de choses à voir avec l'âge. Elle a beaucoup à voir avec le service. Le Seigneur a expliqué que la dignité se construit sur le service, pas simplement à la famille et aux amis, mais également aux étrangers et même aux ennemis. On trouve cette vérité dans le paradis perdu de Milton. Bien souvent, il n'est rien de plus profitable que l'amour-propre fondé sur la justice et le droit, bien géré. Je voudrais proposer 6 clés essentielles pour conserver un amour-propre sain. La première clé est de garder notre libre arbitre. Cela veut dire que nous ne devons pas abandonner notre maîtrise de nous-mêmes, ni céder à des habitudes qui lient, ni à des penchants qui asservissent, ni à une conduite qui détruit. Pour conserver notre libre arbitre, nous devons éviter les pièges mortels dont il est impossible de se dégager. Certains, après avoir été pris au piège, passent les meilleures années de leur vie à essayer d'échapper, et ce faisant, s'épuisent tellement qu'à la fin, même s'ils arrivent finalement à se libérer de leur esclavage, ils sont épuisés, usés, à bout de force, le cerveau définitivement émoussé. Il vaudrait tellement mieux que pour nous et notre libre arbitre serait bien plus complet si nous pouvions dire avec le psalmiste « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin ». La deuxième clé d'un amour propre équilibré est l'humilité. Je ne parle pas du genre d'humilité qui bat sa coulpe ou prend le sac et la cendre. Je parle de l'humilité qui découle de la force et de la paix intérieure. C'est l'humilité qui nous permet d'accepter et de vivre avec nos défauts sans essayer de les cacher. Il est important d'apprendre à vivre avec les défauts physiques et mentaux que nous ne pouvons pas corriger, sans nous plaindre et sans nous sentir obligés de nous justifier. Il y a quelques mois plutôt, j'ai eu une opération du dos. Et Mais lorsque j'ai parlé au centre de conférence, une congrégation comme celle-ci, une de mes petites filles était là et il m'a dit « Oh, tu as l'air très confortable dans ton fauteuil là-haut. » Et elle me disait « J'avais presque envie d'aller sur tes genoux. » Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance de quelqu'un tout à fait charmant et remarquable. C'est un homme d'affaires prospère, agréable, extraverti et très soigné. Sa spiritualité se marque sur son visage. Quelques mois plus tard, j'ai remarqué qu'il boitait légèrement, ce que je n'avais pas observé précédemment. Ça m'a poussé à le regarder de plus près. En regardant au-delà du sourire aimable, je remarquais que mon ami était un peu voûté, avec une légère scoliose. Ses défauts physiques étaient si bien cachés par sa gentillesse, sa cordialité et son grand charme naturel, qu'il passait inaperçu chez cet homme. Mon ami accepte ses défauts physiques avec humilité et force, et il les compense totalement par sa personnalité naturelle. Il y a une autre dimension de l'humilité qu'il faut mentionner, la réceptivité. Samuel le prophète recommande « Maintenant, arrêtez-vous, que je puisse raisonner avec vous. » Les proverbes nous rappellent que celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. La troisième clé de l'amour-propre est l'honnêteté. Être honnête, c'est tout d'abord être fidèle à soi-même. Il y a quelques années, je me suis trouvé comme spectateur dans un drame déchirant devant un tribunal à propos de la garde d'enfants. On prétendait que la mère n'était pas une bonne ménagère, argument avancé pour étayer la thèse qu'elle était incompétente comme mère. Une assistante sociale avait témoigné que, quand elle avait visité la maison familiale, elle était en désordre et que la cuisine était sale. La mère, qui cherchait à conserver la garde de ses enfants, a été appelée à la barre. Une dame entre deux âges, pesante et physiquement quelconque, s'est avancée, a prêté serment et s'est assise à la barre des témoins. L'avocat du père, qui s'était remarié et voulait la garde des enfants, a martelé implacablement le témoignage déjà fourni par l'assistante sociale. Ces questions taraudaient la mère aux abois. « N'est-il pas vrai, a-t-il demandé, que votre maison était une porcherie le jour où l'assistante sociale est venue ?» Quel drame ! Comment la mère pouvait-elle répondre dans son propre intérêt et conserver la garde de ses enfants ? Que devait-elle dire ? Il y avait de l'électricité dans l'air. Elle a hésité un moment pendant lequel la tension était palpable. Puis elle a répondu calmement avec une assurance totale. « Oui, ma maison était certainement en désordre ce jour-là. » Son honnêteté a manifestement étonné même le juge, qui s'est penché vers elle et a demandé « Que voulez-vous dire par ce jour-là ?»« Monsieur le juge, a-t-elle répondu ce matin-là, quand l'assistante sociale s'est présentée, j'avais fait des conserves de pêche. J'avais épluché, j'avais fait cuire et j'avais mis en bocal 60 litres de pêche. Je n'avais pas fini de nettoyer le désordre quand l'assistante sociale est arrivée. Mon évier était encore collant de sirop qui avait débordé pendant que j'essayais de le verser dans les bocaux avant de les fermer. Ma maison était certainement en désordre ce jour-là. J'essaie d'être une bonne ménagère, mais avec trois enfants, il m'est absolument impossible de la garder tout le temps en ordre. Sa franchise était absolument désarmante et dévastatrice pour la partie adverse. Quand elle eut fini de parler, tout le monde dans le prétoire savait que le juge trancherait en sa faveur. Quand elle s'est levée et a quitté la barre des témoins, elle avait la prestance et l'assurance d'une reine. Être fidèle à soi-même est la base de l'honnêteté et la clé de voûte de l'amour-propre. La quatrième clé de l'amour-propre est l'amour du travail. L'athlète le plus doué à notre université excellait dans tous les sports. Il jouait au football, faisait la course d'obstacles. En fait, il détenait le record interuniversitaire pour les courses de haies basses. Notre entraîneur, Ike Armstrong, exigeait que les sprinteurs courent une fois par semaine 275 mètres avec les coureurs de 400 mètres pour augmenter la vigueur des sprinteurs et pour augmenter la vitesse des coureurs de 400 mètres. Le grand athlète dont je vous ai parlé menait tous les coureurs sur 250 mètres environ. Mais dès que le premier coureur de 400 mètres le dépassait, il s'arrêtait et ne finissait même pas. Son talent et sa capacité naturelle étaient telles qu'il ne devait jamais se surpasser pour exceller. Il s'est marié, mais le mariage a échoué. Il a fait du football professionnel, a été une espèce de vedette jusqu'à ce qu'il commence à se droguer et meurt des effets débilitants de la drogue et de l'alcool. D'autres, qui avaient moins de talent, ont réalisé de bien plus grandes choses que lui. D'après mon expérience, il y a très peu de gens qui soient de vrais génies. Il y en a qui sont doués, mais la plus grande partie de ce qui se fait dans le monde et certains des plus grands apports viennent de gens moyens qui ont un talent qu'ils développent. Un talent tout à fait ordinaire peut être entretenu et alimenté jusqu'à devenir un grand don grâce à un travail acharné. En Chine, il y a des artisans qui passent des années à faire un unique objet d'art, exquis d'une grâce et d'une beauté indescriptibles. Nous ne sommes pas tous doués pour les arts, comme la peinture, la sculpture ou la musique. Il y a beaucoup de dons qui ne sont pas mis en vitrine. Certains peuvent avoir le don naturel de donner aux autres le sentiment d'être important, heureux et hors du commun. C'est le genre de don qu'il faut développer et fortifier. De même, les dons spirituels peuvent être affinés et amplifiés par l'application soigneuse à une vie juste, à la prière, à l'étude des Écritures et à l'obéissance. George Lucas a dit « Ce que les gens disent de moi ou ce que je dis est sans importance. Ce qui compte, c'est ce que j'accomplis. » Ce que nous accomplissons aide notre amour propre. Il peut nous arriver de penser « Le travail que je fais est sans importance » ou « Je ne suis que ceci ou cela ». Chaque travail qui doit être fait est important, aussi minime qu'il paraisse. Quelqu'un doit le faire. La cinquième clé du renforcement de l'amour propre est la capacité d'aimer. Le commandement donné par le Sauveur a été d'aimer les autres et vous-même. Est-ce que je suis suffisamment affermi dans mon amour de moi-même pour rire de moi-même, pour reconnaître mes erreurs, pour accepter aimablement un compliment? Est-ce que je suis suffisamment ferme dans mon amour des autres pour sourire et dire bonjour à un parfait inconnu? Il y a des années, au séminaire, on enseignait à notre classe « Je dois vivre avec moi-même et je veux donc valoir la peine de me connaître. Je veux marcher la tête haute. Je veux imposer le respect à tous. Je ne peux en aucune façon me cacher à moi-même. Je vois ce que d'autres ne verront sans doute jamais. Je ne peux en aucun cas me mentir à moi-même. Par conséquent, quoi qu'il arrive, je veux me respecter et avoir la conscience libre. » La sixième clé, la plus essentielle de l'amour propre, est l'amour de Dieu. Mosia nous rappelle, « Comment l'homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi ?» Dans son épître à Tite, Paul nous rappelle qu'il y en a beaucoup qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. L'apôtre Jean nous donne une clé précieuse. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ensuite, Jean fait une réflexion importante concernant l'obéissance quand il dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Il y en a beaucoup dont l'amour-propre a été détruit par la perte de proches, par le divorce ou par d'autres malheurs personnels. Certains portent un fardeau supplémentaire de culpabilité à cause de péchés graves. La transgression est quelque chose de catastrophique pour l'amour-propre. La transgression est si souvent suivie de justifications et même de mensonges. C'est ce qui rend la justice si violente pour le délinquant. Heureusement, nous avons le grand principe du repentir par lequel les péchés qui sont comme le cramoisi peuvent devenir blancs comme la neige. Je suis reconnaissant de ce principe et je prie pour que personne n'hésite à trouver la paix qui vient du repentir. Il est important de nous rappeler et de ne jamais oublier que nous tous, hommes et femmes, nous avons été créés à l'image de Dieu et créés par Dieu. L'humanité est la plus noble de toutes les créations. Qu'est-ce que l'homme, demande le psalmiste. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Souvent, dans mon ministère, quand j'ai mis à part un président de pieu ou un président de mission, j'ai reçu l'impression distincte que la personne sur la tête de laquelle je posais les mains avait été préordonnée à cet appel. Le prophète Jérémie a reçu cette assurance du Seigneur. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Nous ne sommes pas tous appelés à diriger dans le royaume. Pourtant, y a-t-il une œuvre plus grande que celle d'instructeur, de père, de mère? C'est pour cela que personne n'est personne. Nous avons tous en nous les germes du divin. Le jour viendra où nous devrons tous rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de cette part de divin qui est en nous. Je témoigne. Alors, ce soir, et j'espère que vous aurez le temps ce soir, chers jeunes gens, de passer quelque temps entre vous. Alors, je vais conclure.
Et
j'aimerais vous apprendre quelque chose d'autre. Je sais que les réunions ne doivent pas être sans fin pour être éternelles. Je témoigne que Dieu aime chacun de nous, défauts compris. Je témoigne qu'il connaît notre nom à chacun. Je témoigne que chacun de nous a un potentiel dans cette vie et au-delà de la tombe, qui dépasse nos rêves les plus fous. Je témoigne par les dons du Saint-Esprit que nous sommes engagés dans son œuvre sainte. J'appelle les bénédictions du ciel sur tous et je prie pour que nous parvenions à la connaissance de ce que nous sommes vraiment, les fils et les filles de Dieu. Et j'aimerais implorer une bénédiction sur vous. C'est une bénédiction que le Seigneur a donnée à Néphi. Mais je vais substituer à ceci vos noms, Catherine, Henry, Bill, tous. Tout le monde va être inclus dans cette bénédiction. Soyez bénis, tous, pour les choses que tu vous avais faites. Car j'ai déclaré la parole que je vous ai donné, vous, à vous, mon peuple. Et vous n'avez pas été effrayé, mais vous avez cherché ma volonté et gardé mes commandements. Et voici la bénédiction. Et parce que tu as fait ceci avec gratitude, alors je vous bénis pour toujours.
And I will make thee mighty in word,
deed, in faith. Je vous ferai fort en parole, en acte, au nom de Jésus-Christ. Amen.